Et les matins débutent par le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Après les annonces, le calendrier, baisse de l'impôt sur le revenu dès 2020, réforme des retraites, de l'assurance chômage, décentralisation notamment, le Premier ministre Édouard Philippe a tracé hier les lignes du plan du gouvernement pour mettre en œuvre les mesures dévoilées par Emmanuel Macron jeudi dernier.
À moins de 3 semaines du vote, la caravane des Européennes, c'est toute la semaine sur France Culture.
Avec cette question ce matin, quelle est la place de la France au sein de l'Union Européenne depuis le traité de Rome en 1957 ? Précision avec Annabelle Grelier dans ce journal.
Et puis en Corée du Sud, les femmes qui ont des enfants sans être mariées subissent de fortes discriminations.
Et elles s'organisent en association pour lutter contre une société encore très conservatrice. Reportage à Séoul dans ce journal. Au sommet sur la biodiversité qui s'est ouvert hier à Paris, 150 experts tentent d'enrayer l'extinction de masse des espèces sur la planète. Nous les entendrons. Et puis la question du jour, Guillaume.
Eh bien une nouvelle vidéo d'Al-Baghdadi. Que reste-t-il de l'État islamique ? On posera la question au politologue spécialiste de l'islam, Olivier Roy.
Mais on commence avec cette action inédite pour défendre les droits des employés d'Amazon. Du Pakistan à l'Argentine, en passant par l'Égypte ou la France, des représentants de syndicats sont venus de 16 pays du monde pour une réunion coordonnée à Berlin, aujourd'hui, la veille de la fête du travail, pour s'organiser face aux géants de Seattle. Car tous dénoncent des conditions de travail inacceptables au cœur du numéro 1 mondial de la vente en ligne. À Berlin, David Philippot.
Sur la photo de groupe, les syndicats de tous les pays s'unissent devant une banderole noire où il est écrit « Traités comme des robots par Amazon ».
Nos collègues américains nous avaient passé une vidéo, on voyait le robot, mais c'est l'humain qui courait derrière le robot. Parce que le robot ne pouvait pas prendre les objets, c'est l'humain qui prenait, mais il courait derrière le robot.
Pierrick Le Guérinec, de la CFDT.
C'est tout un travail qui est totalement destructeur. Aujourd'hui, on s'aperçoit, et même en France, qu'une personne qui rentre chez Amazon travaille au maximum 2 ans, jamais plus. Il n'y a jamais de continuité de contrat, parce que les gens sont totalement détruits physiquement et psychologiquement.
Une première réunion à Londres il y a 6 mois. Aujourd'hui à Berlin, les syndicats veulent coordonner leur riposte face au géant mondial. Conditions de travail, management, respect de la législation. Mais ils savent aussi que la solution sera politique et globale. Stéphanie Nutzenberg du syndicat Verdi.
Aucune entreprise qui réclame en permanence des subventions et des infrastructures ne peut se soustraire ainsi à l'impôt. Et une entreprise qui domine à ce point le marché doit être soumise à des règles particulières. Et la réponse que l'Europe peut y apporter est décisive.
Dans un communiqué transmis à l'agence France Presse, la direction du groupe américain se présente comme un employeur juste et responsable, même sans respecter les conventions collectives.
David Philippot à Berlin pour France Culture. Un autre géant du net, Google, connaît lui un ralentissement de sa croissance en bourse. Après un bond de 26% sur l'année dernière, sa maison mère, Alphabet, montre une baisse de 7% sur le premier trimestre. Deux raisons majeures, une grande pression sur le marché de la publicité en ligne, mais aussi une conséquence de l'amende infligée par la Commission européenne le 20 mars dernier. Pour la troisième fois en moins de 2 ans, Google a été condamné pour pratiques anticoncurrentielles dans l'Union européenne. La sanction financière a atteint près de 1,5 milliard d'euros. À cause de cette nouvelle amende, le bénéfice net trimestriel d'Alphabet a chuté de près de 30%. Direction maintenant la Corée du Sud. On s'intéresse ce matin au sort des mamans qui ont des enfants hors mariage et subissent encore aujourd'hui de très fortes discriminations. En dehors de l'image d'un pays très moderne, à la pointe de la technologie, la société sud-coréenne reste très conservatrice. Seulement 2% des enfants naissent de parents non mariés. Dans ce contexte, les naissances hors mariage sont encore très stigmatisées. Les mères non mariées et leurs enfants sont largement discriminés. Plusieurs d'entre elles ont créé une association pour s'entraider et pour faire changer les mentalités. Reportage à Séoul du correspondant de RFI pour France Culture, Frédéric Ojardias.
Kumfa est une association de mères non mariées à Séoul. Un local minuscule rempli de cartons, de couches, de jouets, de layettes. Nous y rencontrons Chang Soo-jin, maman d'une fille de 13 ans.
Je travaillais comme vendeuse dans une supérette. Quand mon patron a appris que j'étais enceinte et célibataire, il m'a virée. Il m'a dit « Je ne veux pas de quelqu'un comme toi ici ». Il n'y avait pas que mon patron. Même mes collègues me montraient du doigt. Je ne pouvais plus travailler.
Chung Soo-jin a aussi été insultée par ses voisins. En Corée du Sud, les mères célibataires sont vues comme dépravées et elles subissent des pressions énormes pour avorter ou pour abandonner leur bébé. Et leurs enfants aussi sont victimes d'ostracisme. La présidente de l'association, Kim Do-gyeong, explique que le certificat de naissance de son fils indique « né hors mariage ».
Lors d'une réunion de mères d'élèves, l'une d'entre elles a commencé à murmurer dans mon dos
C'est une mère célibataire. Après cela, les parents ont demandé à leurs enfants de ne plus jouer avec mon fils. Quand ils organisent des rencontres entre parents, je ne suis jamais invitée. C'est comme cela que les mères célibataires se retrouvent isolées par la société.
L'association Kumfa offre à ses mères une aide financière et psychologique. Kim Do-gyeong note des avancées. Depuis 7 années, le gouvernement donne 130 euros de subvention par mois aux mères non mariées et les certificats de naissance n'indiquent plus la situation matrimoniale des parents. Mais dans les mentalités, d'énormes progrès restent à faire.
Le chef du groupe État islamique est vivant. Abu Bakta al-Baghdadi est apparu pour la première fois en 5 ans dans une vidéo de propagande diffusée hier soir par l'organisation djihadiste, un peu plus d'un mois après la chute de son califat autoproclamé. Camille Manière y reviendra dans sa revue de presse internationale à 7h35 sur France Culture.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont dans les matins. La caravane des Européennes, c'est toute la semaine sur France Culture avant le vote pour les élections législatives du 26 mai prochain.
Gros plan ce matin sur la France et sa place au sein de l'Union Européenne depuis le traité de Rome de 1957. Depuis, le couple franco-allemand que l'on disait moteur de la construction européenne semble en panne et les relations avec l'Italie sont au plus bas, Annabelle Grelier.
Le traité de Rome ne concernait qu'une Europe des 6 et la France en était de très loin la puissance dominante, que ce soit sur le plan économique, agricole ou encore militaire. Avec son statut de grande puissance, seul État des 6 pays fondateurs à détenir un siège de membre permanent avec droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, la France, dans les premières décennies de la construction européenne, s'est habituée à imposer ses choix, comme pour la PAC en 62 ou encore le Conseil européen que lancera Giscard d'Estaing en forçant quelque peu la main de ses homologues européens. Européen en 74. L'Europe, c'est la France en grand, avait-on coutume de dire. Mais avec l'élargissement progressif de l'Union européenne, l'influence de la France s'est quelque peu diluée. Le couple franco-allemand s'est aussi enrayé. Du fait de son décrochage économique vis-à-vis de l'Allemagne, l'Allemagne devenue première puissance économique européenne à la rigueur budgétaire, contrastant avec une France complaisante avec la règle des 3% de déficit public et quelque peu arrogante. À l'image des discours enflammés d'Emmanuel Macron pendant la première année de son quinquennat, arrivé en sauveur de l'Europe et qui, quasiment 2 ans plus tard, ne suscite plus beaucoup d'engouement, voire même de la défiance. Les ambitions françaises pour l'Europe se heurtent aujourd'hui à une Allemagne perçue comme intransigeante, sans parler des relations avec l'Italie qui n'ont jamais été aussi tendues depuis l'arrivée au pouvoir de la nouvelle coalition Liga et Mouvement 5 étoiles.
Prochaine étape de la caravane des Européennes à 8h sur France Culture, nous intéresserons au casse-tête du nombre de députés européens en fonction du Brexit. Anne Fauquemberg nous parlera des potentiels députés fantômes notamment. Édouard Philippe a dévoilé hier le plan de travail du gouvernement pour mettre en œuvre les mesures annoncées par Emmanuel Macron jeudi dernier. François Patriat, sénateur La République En Marche, a participé au séminaire gouvernemental hier. Il était l'invité du journal de 22h sur France Culture.
On a parlé transition écologique, on a parlé réforme institutionnelle, on a parlé... Programme social, on a parlé mobilité, on n'est pas rentré dans le fond et dans les mesures qui viendront en leur temps. Il y aura d'autres séminaires de prévus à l'avenir, mais pour l'instant, il fallait qu'on se mette bien d'accord, à la fois, je vous dis, sur les objets, quels sont les objets maintenant, les catégories d'objets qu'on veut, autour du travail, autour du débat climatique, autour des institutions, autour de la proximité, autour de la différenciation pour les territoires demain. Donc les thématiques qui ont été évoquées par les chefs de l'État, on a essayé de bien les circonstancier, de bien les identifier, de voir comment on pouvait travailler à l'avenir, avec quelle méthode et dans quel calendrier. Personne ne peut imaginer que des mesures budgétaires peuvent être décidées comme ça du jour au lendemain sans avoir étudié les possibilités. Personne ne peut imaginer qu'on peut définir aujourd'hui la dépendance alors qu'on sait très bien que ça va venir, dans le temps et à l'automne. Donc toutes les mesures qu'a évoqué le chef de l'État, qu'il a donné au gouvernement leur mission de les mettre en place, c'est ce que nous faisons dès aujourd'hui. Nous commençons à les mettre en place en ordonnant les priorités, en définissant les objets et en prévoyant un calendrier.
François Patriat, sénateur de la majorité présidentielle, répondait à Kathleen Conte. Au niveau du calendrier, justement, au mois de juin, la limitation à 80 km/h sur les routes devrait faire partie des mesures de décentralisation, ainsi que la compensation de la suppression de la taxe d'habitation. Le gouvernement prévoit de présenter aussi les modalités de la baisse de l'impôt sur le revenu et la réforme de l'assurance chômage. On y reviendra dans le journal de 7h30 sur France Culture. C'est une course contre la montre pour tenter d'enrayer l'extinction massive d'espèces sur Terre. À Paris, un groupe d'experts venus de 130 pays est venu depuis hier pour un sommet mondial de la biodiversité sous l'égide des Nations Unies. Avec un objectif, une prise de conscience des dirigeants à travers le monde pour mener enfin une politique mondiale de sauvegarde de la nature, Lauriane Avard.
Ils veulent un texte aussi fort que celui de l'accord de Paris sur le climat. Sauf qu'aujourd'hui, il faut sortir de la symbolique. En prendre conscience, c'est bien, mais on attend toujours des actes. Et c'est l'occasion pour Jean-François Sylvain, le président de la Fondation de la Recherche sur la Biodiversité.
À la limite, c'est peut-être justement de tenir compte des enseignements de cet accord de Paris et de ses limites pour être plus opérationnel en matière justement de protection de la biodiversité et d'en assurer l'usage durable. Montrer que cette histoire de mur, c'est pas un fantasme, c'est une réalité. L'effondrement de la biodiversité est une réalité.
Moins 80% d'insectes en Allemagne en 30 ans, la disparition d'un tiers des oiseaux dans les campagnes françaises. Mais les solutions sont là. Paul Edley est l'un des auteurs de ce rapport.
Il faut arrêter autant que possible les destructions d'habitat. On n'a plus besoin de couper des forêts à l'échelle planétaire. On peut avoir autant de production agricole, on peut avoir autant de productivité à l'échelle planétaire sans créer autant de polluants, à la fois pour sauvegarder les biodiversités et pour atténuer les changements climatiques.
Les pistes d'action seront détaillées le 6 mai prochain, jour de publication de ce rapport de 1800 pages sur la biodiversité. À chaque État, ensuite, de prendre des mesures en fonction des besoins.
On ne peut pas donner une formule pour tout le monde dans une évaluation à l'échelle planétaire. Chacun de traduire à l'échelle locale.
Des objectifs qui seront fixés en 2020 à Kunming, en Chine, pour la COP15 biodiversité.
En attendant, le rapport de synthèse sera discuté, amendé et adopté ligne par ligne par les délégués avant sa publication le 6 mai prochain. Du soleil sur la majorité du territoire aujourd'hui. Seule l'Alsace devrait connaître quelques averses ce matin. Un temps sec en revanche partout cet après-midi. Quelques nuages alterneront avec le soleil sur la moitié nord aujourd'hui. Les températures, Guillaume, 9 à 18 degrés ce matin avec 9 à Amiens, 14 à Paris, jusqu'à 18 degrés à Marseille.